Hier, le 8 mars, avait lieu un lancement, le lancement du guide et des capsules vidéo « Réussir sa vie professionnelle avec une perte de vision », un projet réalisé par le CAMO, le comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour les personnes handicapées situé à Montréal. Et c'est un projet réalisé grâce au soutien de la Fondation Hector
Sipiot.
Sipiot, c'est comme ça qu'on
Voilà,
prononce,
oui, tout à fait.
Sipiot. Ah,
Oui,
ben
oui.
merci. J'accueille la voix que vous entendez et le directeur général, Monsieur Claude Séguin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous
Ah, ben, ça me fait
aujourd'hui.
plaisir.
Donc, on fait un retour sur ce lancement hier, un
Oui.
grand projet qui
Oui.
s'est quand même échelonné sur.
Sur à peu près une année.
Oui,
Oui,
c'est
oui.
une année de travail.
Oui.
Ce projet de guide et de capsule vidéo, ça présente 9 parcours de professionnels qui vivent avec une perte de vision et de leurs employeurs.
Tout à fait. Alors, notre but, au fond, c'était de tenter le mieux qu'on pouvait de démontrer, de convaincre même, autant que c'est possible, que on peut travailler avec une déficience visuelle, de démontrer que la déficience visuelle, ce n'est pas un frein insurmontable à l'emploi. Donc, on s'est dit, la meilleure façon de le démontrer, c'est de pouvoir avoir des témoignages de travailleurs, de personnes donc, qui sont en emploi, qui ont des déficiences visuelles, d'avoir aussi des témoignages de leur employeur pour faire ressortir là-dedans, c'était quoi un petit peu les conditions qui sont gagnantes ou favorables pour favoriser donc cette intégration en emploi. Alors, on a essayé d'établir nos profils de personnes pour que ça puisse décrire là, le plus largement possible toutes sortes de cas de figure, si on peut me permettre l'expression. Donc, au niveau de la déficience visuelle, bien évidemment, on a voulu avoir des gens dont le profil pouvait tenir compte de différents types de déficience et donc que ça permettait de voir que des gens fonctionnent pour un bon nombre avec des capacités visuelles, d'autres avec moins de capacités parce qu'ils s'approchent peut-être davantage de la cécité. Mais on voulait avoir ces profils pour démontrer que on pouvait réussir sa vie professionnelle avec ces caractéristiques-là.
Et qu'est-ce qui est ressorti justement? Est-ce qu'on est capable de dresser certains de nommer certains éléments qui favorisent vraiment? Vous avez remarqué quelque chose au niveau des milieux d'emploi? De même que chez les professionnels, on parle pour les professionnels de personnes qui s'assument.
Oui, je pense que c'est important d'envisager que si on veut réussir sa vie professionnelle, il faut faire certaines démarches en fonction des exigences d'une vie professionnelle. Ce qui veut dire que, ben, nécessairement, il faut aller chercher certaines formations en fonction d'un marché de travail, de répondre à un certain nombre de besoins du marché du travail. À cet égard-là, ben, il ressort assez clairement, de toute façon, des études qu'on a pu faire sur le sujet, que les personnes handicapées en général et les gens qui ont des déficiences visuelles se sont bien investis au niveau de leur propre formation.
Ils sont proactifs.
Sont très proactifs. Au cours des dernières années, je vous dirais que on a constaté un achalandage très accru des personnes handicapées au collège et à l'université. Au collège, dans les services d'aide aux étudiants en situation de handicap, eh bien, c'est une augmentation d'à peu près 300 %. Et à l'université, c'est de l'ordre de 200 %. Donc, ça défait pas mal le mythe qu'on n'accéderait pas à l'emploi parce qu'on n'a pas beaucoup de scolarité ou pas beaucoup de formation.
Absolument.
Alors, donc, dans les caractéristiques où on dit que les personnes doivent s'assumer, bien, c'est sûr que ça, c'est important. C'est sûr que les personnes, pour un bon nombre aussi, ont eu souvent à faire des apprentissages que je n'ai pas eu, moi, à faire parce que je n'ai pas ce type de problème-là. Donc, je réfère, entre autres, évidemment, à des cheminements souvent de réadaptation où on veut maintenir son autonomie, mais ça suppose de développer des stratégies différentes pour la maintenir, cette autonomie-là.
Ou d'aller chercher les outils
D'aller chercher les outils,
techniques qui
tout
vont
à
nous
fait,
permettre de fonctionner.
et apprendre à s'en servir. De là, ces apprentissages qui sont quand même exigeants à certains égards. Donc, on essaie de faire ressortir que ces personnes s'assument bien, mais elles peuvent être confrontées à un certain nombre d'obstacles dans l'environnement de travail et elles auraient beau s'assumer, si ces obstacles-là ne sont pas aplanis, eh bien, l'intégration en emploi va être nécessairement compromise.
Ça prend une présence de valeur, d'équité et d'accès à l'emploi aussi, une ouverture chez les employeurs. C'est aussi ce qu'on voit.
Oui, je pense que ça prend certaines valeurs sûrement associées à l'accès à l'égalité en emploi. Mais au-delà des valeurs, ça suppose aussi de pouvoir agir bien concrètement sur des obstacles dans l'environnement de travail.
Avez-vous des exemples? Oui, exemple.
Alors donc, si donc dans cet environnement-là, on doit accéder à de l'information et on est privé des technologies adaptées qui nous sont utiles pour accéder à cette information, évidemment qu'on ne pourra pas se maintenir dans cet emploi-là. Alors, c'est sûr que les employeurs apprennent, entre autres choses, par nos interventions, parce qu'on fait beaucoup de formations en entreprise, apprennent que ça existe, plein de technologies adaptées qui font qu'on on peut agir sur des situations qui étaient handicapantes. Il y a parfois des choses, évidemment, plus simples au niveau des déplacements. On peut avoir un environnement qui va être plus facilitant avec quelques contrastes pour se repérer. On projette soit une petite vidéo lorsqu'on fait de la formation, puis la personne qu'on voit à l'écran, qui est une personne qui a peu de vision, on la voit se déplacer à un moment donné, puis en sortant de l'ascenseur, il y a un tapis qui avait été prévu normalement parce que l'hiver, on ne veut pas trop salir le plancher. Mais cette personne-là utilise sa canne en suivant le bord du tapis et elle arrive très facilement à son bureau.
Mm-hmm.
Donc, il y a aussi plein de choses simples auxquelles on ne pense pas nécessairement quand on n'est pas dans cet environnement, quand on n'a pas côtoyé ces personnes qui ont des déficiences visuelles. Mais on réalise donc qu'il y a plein de choses possibles, pas toujours très compliquées, et qui font faire toute la différence, et bien sûr.
Et donc, c'est ce genre d'exemple qu'on retrouve dans le guide et les capsules vidéo.
Oui, et donc, ces obstacles qui sont comme évidents quand je parle de barrières architecturales ou d'accès à l'information, mais aussi d'autres types d'obstacles, peut-être plus subtils, qui sont plutôt de l'ordre de la perception.
Mm-hmm.
Quand on fait, nous, de la formation, d'ailleurs, en entreprise, j'aime toujours faire un petit exercice aux gens que je rencontre, qui sont tous des gens des ressources humaines de différentes entreprises. Et je leur fais faire le petit exercice suivant. Je leur dis, prenez 2-3 minutes, puis inscrivez-moi sur une feuille 3 mots qui évoquent pour vous des personnes handicapées.
Mm-hmm.
Mais très spontanément, il n'y a pas de réflexion à faire. Cherchez pas une bonne réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Puis juste après ça, on va partager un petit peu comment vous avez évalué, là, c'est quoi les mots qui sont venus spontanément. Et puis on inscrit donc au tableau les mots, puis on voit apparaître 2 colonnes souvent, une plus importante que l'autre, puis des mots qui vont être associés plus à des pertes, à des incapacités, à des besoins d'adaptation, et le reste, et le reste. Et moins dans la colonne potentiel, compétences, détermination, etc., etc. Fait qu'on essaie tranquillement d'amener les gens à développer un regard différent,
mm-hmm,
en fonction des compétences que ces gens-là ont et non pas des pertes.
Absolument, voir la personne en tant que selon ses capacités et non pas selon des limitations perçues.
Oui, puis on sait que les images, les objets, etc., ça nous renvoie souvent donc des perceptions qui ne sont pas dans l'ordre de ce potentiel. Fait qu'on essaie donc de transformer un petit peu ce regard-là qu'on peut avoir sur les personnes et puis de faire valoir, évidemment, avec une information objective, le fait que ces personnes ont des diplômes dans plein de domaines. Nous, au CAMO, on a organisé des salons d'emploi au cours des années. On a réalisé, entre autres choses, qu'à un des salons en particulier, où il y avait 900 personnes handicapées qui étaient venues rencontrer des employeurs, eh bien, les 2/3 de ces gens-là avaient des profils de formation postsecondaire. 42% avaient des formations universitaires. Donc, ça veut dire qu'il y a des compétences au rendez-vous.
Absolument.
Puis dans un contexte où il y a une plus grande rareté au niveau de la main-d'œuvre, du fait de la démographie et d'autres facteurs, c'est un autre argument qu'on veut bien faire valoir aussi aux entreprises, et dire, écoutez, peut-être que vous avez ignoré jusque-là un bassin important, de main-d'œuvre qui a plein de compétences dans plein de domaines. Alors, ben, on vous les présente.
Vous servez justement le camo-sert d'intermédiaire à ce moment-là, de facilitateur, si on veut, de rencontre. Monsieur Séguin, il nous reste très peu de temps. Dans le guide, il y a aussi une section pour des ressources externes que les employeurs peuvent consulter, les employeurs et les employés.
Oui. Ben, là, on leur parle évidemment de certaines ressources parce qu'on veut essayer de leur faire valoir donc, que ces entreprises-là ne sont pas seules là, dans leur démarche de recrutement puis d'embauche. Alors, bon, il y a des services classiques, réguliers, qui sont ceux d'Emploi Québec, là, que là, tout le monde connaît, mais il y en a qui sont plus propres, plus particuliers. Et on pense aux services d'emploi plus spécialisés, services de main-d'œuvre aux personnes handicapées. Et si on parle des gens qui ont des déficiences visuelles, bien, à Montréal, il y a un service qui est très dédié à ces personnes-là. C'est Horizon Travail, qui sont sur la rue Saint-Antoine, près de...
Dans le Vieux-Montréal.
Oui, ben dans le bas de la ville, près de Metcalf, peut-être, ou Mansfield. Donc, ce service-là, il est tout à fait dédié, spécialisé à soutenir les personnes en démarche d'emploi et les employeurs, bien sûr. Il y a bon nombre de services de réadaptation grandeur du Québec aussi, pour lesquels, évidemment, là, c'est important de...
Et bien sûr, il y a des services d'Emploi Québec aussi qui offrent différents programmes qui peuvent être des incitatifs pour les employeurs aussi.
Tout à fait.
Ce guide et surtout les 9 capsules vidéo, parce qu'ils se déclinent en un guide aussi, mais aussi 9 capsules vidéo, ils sont disponibles sur le site web du CAMO, camo.qc.ca. Merci beaucoup. Monsieur Claude Séguin, vous êtes directeur général du CAMO. Merci d'être venu nous présenter ce guide « Réussir sa vie professionnelle avec une perte de vision ».
Eh bien, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté votre invitation.